VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Nouakchott, midi à Bangui, bienvenue à notre journal. En RDC, tremblement de terre tôt ce matin au sud Kivu, dans l'est du pays. Un séisme d'une intensité de 5,6 sur l'échelle de Richter qui a tué au moins 2 enfants à Bukavu, chef-lieu de la province, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Le compte-rendu de notre correspondant à Bukavu, Ernest Mouéou.
Il était 3h passées de 27 minutes lorsqu'ici à Bukavu, des secousses en termes de tremblements de terre se sont fait sentir avec acuité. Tout était en mouvement et aussitôt des familles entières se sont précipitées dehors, ça et là, des enfants encore ensommeillés sont accrochés à leurs parents sans trop bien comprendre ce qui se passe. Aussitôt après, il y a eu une deuxième et troisième réplique. Une heure après le séisme, la plupart des familles se sont décidées à retourner dans leur maison. De Bukavu, Ernest Mouero pour La Voix de l'Amérique.
On reste en RDC où 161 opposants et membres de la société civile annoncent une série de manifestations contre ce qu'ils estiment être les manœuvres du président Joseph Kabila pour se maintenir au pouvoir. À l'honneur dans leur campagne, le député Jean-Bertrand Ewanga qui vient de sortir de prison après 1 an de détention pour offense au chef de l'État et autres autorités. Les explications du député Martin Fayoulou, coordonnateur de la plateforme Sauvons la RDC, au micro d'Eddie Isango.
Nous commençons lundi prochain par une conférence de presse de notre cher camarade Jean-Bertrand Ewanga, qui vient de purger 1 an de prison, donc emprisonné injustement par M. Kabila. Et après, nous avons la campagne sur l'enrôlement, donc la campagne qui s'intitule « L'enrôlement s'impose avant toute élection en RDC ». Et ainsi de suite, nous irons en convention, nous allons nous réunir et d'abord, avant la réunion, nous aurons un meeting populaire le 15 septembre. Et le 15 septembre, c'est une date symbolique, c'est le jour de la rentrée parlementaire.
Qui sont parmi les signataires de cette déclaration que vous avez faite?
C'est toute l'opposition, la dynamique de l'opposition pour l'unité d'action. Là-dedans, vous avez toute l'opposition, sauf bien sûr les amis de l'IDPS qui ne sont pas encore rejoints. Plus que 116 partis, il y a les partis de l'opposition et il y a la société civile, les membres de la diaspora congolaise.
Vous parlez du départ du président Joseph Kabila qui n'a pas encore terminé son mandat. Lequel mandat doit se terminer au moment des élections de 2016?
Nous disons ceci tout simplement, que le 20 décembre 2016, le Congo aura un président élu qui va prêter serment. Donc, que M. Kabila se prépare. Nous ne faisons pas des révolutions pour dire, voilà, il part avant les 19 décembre 2016.
Le président Joseph Kabila n'a jamais dit qu'il ne partirait pas. Qu'est-ce qui vous dit qu'il essaie de briguer un troisième mandat?
Pourquoi alors il procède au démantèlement des provinces précipitamment? Pourquoi alors il tient mordicus à organiser les élections locales qui, aujourd'hui, si elles sont organisées, ce sera bâclé? Pourquoi il tient à avoir à tout prix la loi sur la répartition des sièges ou les annexes sur la répartition des sièges?
Le député d'opposition Martin Fayoulou à Kinshasa. En Ouganda, la justice vient de renforcer la protection des droits des femmes. À preuve, un verdict publié hier interdit aux hommes divorcés de réclamer la dot versée à la famille de leur épouse. Ce qui rend plus facile l'abandon d'une relation abusive, chez Rubin Dorsil.
La Cour suprême de l'Ouganda n'a pas dit que le paiement de la dot était constitutionnel, mais elle affirme que le concept de remboursement après le divorce doit être proscrit puisqu'elle ignore la contribution des femmes à leur mariage et traite l'union conjugale comme une transaction commerciale. La dot est une pratique courante en Ouganda comme dans d'autres pays africains, mais si l'épouse sollicite un divorce, l'homme et ses parents exigent le remboursement, d'habitude en bétail, de ce qu'ils avaient versé à la famille de la femme au moment du mariage. Depuis des années, les organisations de défense des droits humains appellent à l'abolition de cette pratique, arguant qu'elle contraint les femmes victimes d'abus et de violences dans leur foyer à ne pas se séparer de leur conjoint. Dans cette décision, les juges de la Cour suprême ont voulu préserver la dot comme partie intégrante du mariage traditionnel, tout en interdisant la réclamation du remboursement, a expliqué Ida Nabunia, porte-parole du groupe Mifomi Project, qui avait saisi le tribunal. Cela implique que les épouses maltraitées par leur mari ne seront plus forcées de rester quand elles n'ont pas de quoi remettre la dot versée à leurs parents.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Guinée, face au rapport de Human Rights Watch qui accuse les autorités d'excès de zèle dans la répression des manifestants anti-gouvernementaux, le porte-parole du gouvernement guinéen, Damantang Albert Camara, a plaidé le manque d'entraînement des forces de sécurité au micro de Georges Léonard Sagnio.
Cela a suscité et a justifié cette fameuse réforme des services de sécurité pour en faire des forces républicaines et respectueuses d'une démocratie, d'un état de droit. Cela a commencé par l'armée et la gendarmerie. Et vous noterez que le rapport du Human Rights Watch, d'ailleurs, dédouane plus ou moins la gendarmerie et l'armée et met plutôt l'accent sur la police qui, effectivement, n'a pas eu encore accès à cette réforme. N'oubliez pas également que ce rapport fait état de l'extrême violence des manifestants. Tout ceci met en place un cocktail qui explique sans l'excuser les violences qui se déroulent et dont plusieurs personnes sont victimes. Et malheureusement, le gouvernement pour le moment se bat pour faire des personnes qui se la fait.
Puisque vous confirmez le contenu du dit rapport, alors quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour corriger cet état de fait?
Sans l'avoir confirmé, nous n'excluons absolument pas, par rapport à toutes les raisons que je viens de vous évoquer, qu'il y ait pu y avoir un usage excessif de la force. Ça, nous ne l'excluons pas. Ça a été une tradition à l'époque lorsque le béret rouge se chargeait de l'ordre public. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais nous ne l'excluons pas. Et chaque fois, effectivement, des enquêtes sont ouvertes. Mais le premier élément, c'est d'abord la réforme. Et ça, nous l'avons commencé. Ce que je peux vous dire, c'est que si nous n'avions pas fait cette réforme-là, aujourd'hui, vous auriez encore les militaires qui se retrouveraient en train de gérer des manifestations. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous venons également d'adopter une loi qui gère les manifestations, qui encadre strictement l'utilisation des armes à feu avec des obligations de rapport, des obligations de proportionnalité. Donc tout ceci devrait nous permettre d'aller dans une dynamique beaucoup plus sécuritaire, mais également beaucoup plus respectueuse des droits de l'homme.
3 ans après les massacres de Jogota, quelle est la suite réservée à ce dossier?
Je crois qu'il est prématuré de parler de massacres. C'est déjà grave ce qui s'est passé à Jogota. Il faut absolument que la lumière soit faite. Maintenant, je sais que la procédure judiciaire est ouverte. Je sais qu'aux dernières assises, il y a eu l'évocation de la situation de Jogota et aux dernières nouvelles, le ministre de la Justice a fait prendre des mesures pour qu'effectivement cette affaire la voie également la lumière à travers un procès.
Damantang Albert Camara, porte-parole du gouvernement guinéen. Retour ce matin sur le Yali 2015, le programme du président Barack Obama pour les jeunes leaders africains, qui s'est achevé par un sommet ce mercredi ici à Washington. Parmi les 500 participants, Boussoura Tal Gueye, une jeune Sénégalaise qui travaille dans le domaine des déchets électroniques à Dakar au Sénégal. Elle revient sur son expérience américaine au micro de Nicolas Pinault.
Effectivement, on vient de terminer 6 semaines de cours dans des universités américaines, suivies de 3 jours de sommet avec le président Obama et son administration. Ce qu'on peut retenir de ce programme, c'est qu'il est très riche en termes de formation. Moi, je suis dans le groupe business et entrepreneuriat, donc très riche en termes de formation en business, comment faire son business plan, comment trouver la bonne idée, comment la développer, comment trouver les bons collaborateurs et également comment faire du networking. Durant le sommet, donc, on a eu un discours du président Obama qui nous a vraiment remotivés à travailler pour nos pays et puis à développer notre leadership.
Qu'est-ce que vous faites au Sénégal?
Moi, je suis cofondatrice de CETIC. C'est une société qui travaille dans le recyclage des déchets électroniques. Donc, on récupère les déchets électroniques tels que les téléphones mobiles, les ordinateurs, mais également, on a les box de collecte de cartouches d'impression ou de piles. Donc, on les récupère au niveau de Dakar actuellement pour les faire recycler. On a un centre de démantèlement qui est basé à Dakar.
Et est-ce que vous avez trouvé des réponses à certaines de vos préoccupations dans vos activités ici?
Je dirais plutôt que j'ai trouvé des points qui peuvent m'aider à développer mon business. Quand je prends par exemple par rapport à l'université, on a quand même eu des profs qui, même s'ils n'avaient pas le background par rapport au business qu'on fait, nous ont beaucoup challengés. Nous ont permis en fait de nous poser les bonnes questions par rapport à notre business. Déjà, est-ce que c'est la bonne idée et est-ce qu'on a la bonne approche pour le faire? Après, j'ai également eu l'occasion de faire pas mal de visites de sites dans ce domaine-là, donc dans lequel en fait je peux facilement réseauter et puis collaborer avec des personnes ici qui pourront m'aider à développer mon idée en Afrique.
Donc on peut dire que vous êtes bien outillé alors?
Oui, tout à fait. Mon côté, je ne me plains pas.
Boussoura Tal Gueye, une participante sénégalaise au Yali 2015. Elle était interviewée par Bagassi Koura. Et on termine avec le vol MH370 de la Malaysia Airlines. La France a déployé de nouveaux moyens aériens et maritimes à La Réunion pour détecter la présence éventuelle de nouveaux débris après la découverte d'un fragment d'aile d'avion sur une plage de cette île de l'océan Indien. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.